Déjà, la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide, alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais, à ce mot, Don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. « À l'écurie, répondit le guide. Pourquoi faire ? Les chevaux ont à manger. Couche ici, monsieur le permettra. Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vît. Peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier. Mais je ne me souciais pas de donner des soupçons à Don José. Et au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je m'étais étendu sur les couvertures de mulet, soigneusement enveloppées dans mon manteau, pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, Don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. 5 minutes après, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte. Mais, au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la Belle Étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte. J'enjambai par-dessus la couche de Don José, qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois. Je m'étendis dessus et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois quand il me sembla voir passer devant moi l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il ? » me demanda Antonio à voix basse. « Dans la venta. Il dort. Il n'a pas peur des punaises. Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval ?» Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, me dit Antonio, au nom de Dieu. Vous ne savez pas qui est cet homme-là. C'est José Navarro, le plus insigne bandit de l'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. » « Bandit ou non, que m'importe, répondis-je. Il ne nous a pas volés et je parierais qu'il n'en a pas envie. » À la bonne heure. Mais il y a 200 ducats pour qui le livrera. Je sais un poste de lancier, à 1 lieue et demie d'ici, et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards solides. J'aurais pris son cheval, mais il est si méchant que nul que le Navarro ne peut en approcher. Que le diable vous emporte, lui dis-je. Quel mal vous a fait ce pauvre homme pour le dénoncer? D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il soit le brigand que vous dites? Parfaitement sûr. Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et m'a dit « Tu as l'air de me connaître. Si tu dis à ce bon monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle. Restez, monsieur, restez auprès de lui, vous n'avez rien à craindre. Tant qu'il vous sera là, il ne se méfiera de rien. » Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la venta pour qu'on ne pût entendre les fers du cheval. Antonio l'avait débarrassé en un clin d'œil des guenilles dont il lui avait enveloppé les pieds. Il se préparait à enfourcher sa monture. J'essayais prières et menaces pour le retenir. « Je suis un pauvre diable, monsieur, me disait-il. 200 ducats ne sont pas à perdre. surtout quand il s'agit de délivrer le pays de pareilles vermines. Mais prenez garde. Si le Navarro se réveille, il sautera sur son espingole, et gare à vous. Moi, je suis trop avancé pour reculer. Arrangez-vous comme vous pourrez. » Le drôle était en selle. Il piqua des deux, et dans l'obscurité, je l'eus bientôt perdu de vue. J'étais fort imité contre mon guide, et passablement inquiet. Après un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans la venta. Don José dormait encore, réparant sans doute en ce moment les fatigues et les veilles de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le secouer rudement pour l'éveiller. Jamais je n'oublierai son regard farouche et le mouvement qu'il fit pour saisir son espingole, que, par mesure de précaution, j'avais mise à quelque distance de sa couche. « Monsieur, lui dis-je, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une sotte question à vous faire. Seriez-vous bien aise de voir arriver ici une demi-douzaine de lanciers ?» Il sauta en pied, et d'une voix terrible, « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-il. « Peu importe d'où vient la vie, pourvu qu'il soit bon. » « Votre guide m'a trahi, mais il me le paiera. Où est-il ? » « Je ne sais, dans l'écurie, je pense. Mais quelqu'un m'a dit... »« Qui vous a dit ?»« Ce ne peut être la vieille. »« Quelqu'un que je ne connais pas. » Sans plus de paroles, avez-vous oui ou non des motifs pour ne pas attendre les soldats ? Si vous en avez, ne perdez pas de temps. Sinon, bonsoir, et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. » « Ah, votre guide, je m'en étais méfié d'abord, mais son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous me croyez. Oui, il y a encore en moi quelque chose qui mérite la pitié d'un galant homme. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Pour prix du service que je vous ai rendu, promettez-moi, don José, de ne soupçonner personne. » De ne pas songer à la vengeance. Tenez, voilà des cigares pour votre route. Bon voyage. Et je lui tendis la main. Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, et après avoir dit quelques mots à la vieille, dans un argot que je ne pus comprendre, il courut au hangar. Quelques instants après, je l'entendais galoper dans la campagne. Pour moi, je me recouchai sur mon banc, mais je ne me rendormis point. Je me demandais si j'avais eu raison de sauver de la potence un voleur, et peut-être un meurtrier, et cela seulement parce que j'avais mangé du jambon avec lui et du riz à la valencienne. N'avais-je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois? Ne l'avais-je pas exposé à la vengeance d'un scélérat? Mais les devoirs de l'hospitalité. Préjugé de sauvage, me disais-je. J'aurais à répondre de tous les crimes que le bandit va commettre. Pourtant est-ce un préjugé que cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements. Peut-être dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvais-je m'en tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude au sujet de la moralité de mon action, lorsque je vis paraître une demi-douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenait prudemment à l'arrière-garde. J'allais au-devant d'eux, et les prévins que le bandit avait pris la fuite depuis plus de 2 heures. La vieille, interrogée par le brigadier, répondit qu'elle connaissait le Navarro, mais que, vivant seule, elle n'aurait jamais osé risquer sa vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu'il venait chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit. Pour moi, il me fallut aller, à quelques lieues de là, exhiber mon passeport et signer une déclaration devant un alcade, après quoi on me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me gardait rancune, soupçonnant que c'était moi qui l'avais empêché de gagner les 200 ducats. Pourtant, nous nous séparâmes bons amis à Cordoue. Là, je lui donnai une gratification aussi forte que l'état de mes finances pouvait me le permettre. Je passai quelques jours à Cordoue. On m'avait indiqué certains manuscrits de la bibliothèque des Dominicains, où je devais trouver des renseignements intéressants sur l'antique Munda. Fort bien accueilli par les bons pères, je passai les journées dans leur couvent, et le soir, je me promenais par la ville. À Cordoue, vers le coucher du soleil, il y a quantité d'oisifs sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir. Là, on respire les émanations d'une tannerie qui conserve encore l'antique renommée du pays pour la préparation des cuirs. Mais en revanche, on y jouit d'un spectacle qui a bien son mérite. Quelques minutes avant l'Angélus, un grand nombre de femmes se rassemblent sur le bord du fleuve, en bas du quai, lequel est assez élevé. Pas un homme n'oserait se mêler à cette troupe. Aussitôt que l'Angélus sonne, il est censé qu'il fait nuit. Au dernier coup de cloche, toutes ces femmes se déshabillent et entrent dans l'eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Du haut du quai, les hommes contemplent les baigneuses, écarquillent les yeux et ne voient pas grand-chose. Cependant, ces formes blanches et incertaines qui se dessinent sur le sombre azur du fleuve font travailler les esprits poétiques. Et, avec un peu d'imagination, il n'est pas difficile de se représenter Diane et ses nymphes au bain, sans avoir à craindre le sort d'Actéon. On m'a dit que quelques mauvais garnements se cotisèrent certains jours pour graisser la patte au sonneur de la cathédrale et lui faire sonner l'Angélus 20 minutes avant l'heure légale. Bien qu'il fît encore grand jour, les nymphes du Guadalquivir n'hésitèrent pas, et se fiant plus à l'Angélus qu'au soleil, elles firent en sûreté de conscience leur toilette de bain, qui est toujours des plus simples. Je n'y étais pas. De mon temps, le sonneur était incorruptible. Le crépuscule peu clair. Et un chat seulement aurait pu distinguer la plus vieille marchande d'orange de la plus jolie grisette de Cordoue. Un soir, à l'heure où l'on ne voit plus rien, je fumais, appuyé sur le parapet du quai, lorsqu'une femme, remontant l'escalier qui conduit à la rivière, vint s'asseoir près de moi. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir, comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les femmes, comme il faut, ne portent le noir que le matin. Le soir, elles s'habillent à la Francesa. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête. Et, à l'obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite, et qu'elle avait de très grands yeux. Je jetai mon cigare aussitôt. Elle comprit cette attention d'une politesse toute française, et se hâta de me dire qu'elle aimait beaucoup l'odeur du tabac, et que même elle fumait, quand elle trouvait des papelitos bien doux. Par bonheur, j'en avais de telles dans mon étui, et je m'empressai de lui en offrir. Elle daigna en prendre un, et l'alluma à un bout de corde enflammée qu'un enfant nous apporta moyennant un sou. Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai. Je crus n'être point indiscret en lui offrant d'aller prendre des glaces à la Neveria. Après une hésitation modeste, elle accepta. Mais avant de se décider, elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma montre, et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup. « Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers? De quel pays êtes-vous, monsieur? Anglais, sans doute. Français, et votre grand serviteur. Et vous, mademoiselle, ou madame, vous êtes probablement de Cordoue? Non. Vous êtes du moins andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler. Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. J'avais appris cette métaphore qui désigne l'Andalousie de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu. Bah, le paradis, les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous. Alors vous seriez donc mauresque, ou, je m'arrêtais, n'osant dire juive. Allons, allons. Vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la Bagia? Avez-vous entendu parler de la Carmencita? C'est moi. J'étais alors un tel mécréant, il y a de cela 15 ans, que je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière. Bon, me dis-je. La semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Allons aujourd'hui prendre des glaces avec une servante du diable. En voyage, il faut tout voir. J'avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l'avouerai à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes et même plusieurs fois j'avais tenté de conjurer l'esprit de ténèbres.